et vous écoutez France Culture. Produit fatal d'une époque où la science prédomine sans que s'éteigne pourtant notre éternel besoin de fantaisie, c'est bien un genre nouveau qui vient de s'épanouir. Maurice Renard, et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre, voué ce soir à la célébration du trait d'union. Trait d'union entre le merveilleux et le scientifique. Le merveilleux scientifique, un genre théorisé par le romancier Maurice Renard, incarné par toute une constellation de revues, de magazines, de contes, de nouvelles et de romans, et surtout exploré par une remarquable exposition à la Bibliothèque nationale de France, site François Mitterrand, une exposition dont la commissaire Fleur Hopkins est ce soir notre invitée. Trait d'union entre le Cotentin et la 5e Avenue, Cherbourg et New York, et ce à la faveur de l'exposition Jack Kirby, visible au musée Thomas-Henry, jusqu'au 1er septembre. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre où il sera ce soir largement question d'imaginaire et surtout de science-fiction et surtout de merveilleux scientifiques. On verra quel sens donner à cette expression avec ou sans trait d'union. Je salue Fleur Hopkins, bonsoir.
Bonsoir François.
Fleur Hopkins, universitaire, on nous prépare une thèse très attendue sur le célèbre merveilleux scientifique dont il va être question donc dans Mauvais genre. Et puis vous êtes avec nous tout particulièrement pour une exposition qui se tient, donc je le répète, à la BNF jusqu'au 25 août, Allée Julien Quint, qui est une exposition donc consacrée aux merveilleux scientifiques, mais on voit plus les reproductions d'objets, on revoit plus des espèces à grande taille, ce qui permet d'en apprécier d'ailleurs l'harmonie et la richesse, les couvertures, les objets. Et vous éclairez aussi, par toute une série de textes, eh bien, ce qu'est le merveilleux scientifique et quelles sont les grandes dates, les grandes figures, et à quelques peut-être les définitions.
Absolument, le souhait de l'exposition, c'était de présenter sous un format de 16 panneaux géants la richesse imaginaire, artistique, littéraire de ce mouvement largement méconnu du merveilleux scientifique qui se déploie plus ou moins entre 1900 et 1930 avec comme figure tutélaire Maurice Renard.
Très bien, ben voilà. Les dés sont jetés, n'est-ce pas, monsieur Rivera ?
Oui.
Qui bon. Lit du merveilleux scientifique depuis qu'il a
l'âge de... Depuis l'apparition du merveilleux scientifique, quasiment.
Et une petite actualité, Jean-Luc Rivera ?
À part la remise du Grand Prix de l'Imaginaire au Festival Étonnant Voyageur ce dimanche, auquel j'aurai le plaisir de participer.
Voilà, résultat des courses donc dimanche pour le Grand Prix de l'Imaginaire. Bonsoir Antoine Guillot.
Bonsoir François Angelier.
Antoine Guillot avec qui on va évoquer bien évidemment Jack Kirby et l'exposition de Cherbourg. Mais avant cela, quelques impressions cannoises, bien évidemment, selon le mauvais genre.
C'était l'année la plus mauvais genre de tout le Festival de Cannes.
J'ai
eu
bien l'impression.
Parce que rien que pour la compétition, alors non seulement la compétition était d'excellente qualité, ce qui change un peu pour le Festival de Cannes et ce qui faisait du bien, mais surtout j'ai compté sur les 21 films présentés, il y en a 11 qu'on peut rattacher à des genres et du mauvais genre. Ça avait commencé évidemment avec les zombies de Jim Jarmusch, qui reprend cette figure exténuée et qui fait un film très étrange, presque un film mort-vivant lui-même. Il y a eu évidemment La Palme d'Or, qui est sortie mercredi dernier, Le Parasite de Bong Joon-ho, qui lors de la cérémonie de remise de prix, c'est placé sous les auspices de Clouseau,
ouais,
et de Chabrol. Donc c'est
joie dans mon cœur.
Et effectivement, à revoir le film, c'est un peu un mélange des Inconnus dans la maison qu'avait scénarisé Clouseau et de La Cérémonie de Chabrol. Donc ça commence dans une fable sociale de lutte des classes et ça finit en fable horrifique avec des créatures étranges qui sont des sortes de fantômes. Et ça a été la grande figure de style du Festival de Cannes cette année, c'est Le Revenant. Alors le zombie, le fantôme des migrants morts en Méditerranée, ça a été toutes sortes de créatures. Et puis très fort le polar, le film noir qui était là, même chez Arnaud Desplechin. On avait une sorte de commissaire simnonien qui menait l'enquête à Roubaix en sorte d'accoucheur des âmes. Mais évidemment le polar dans Les Misérables, et puis un polar asiatique extraordinaire de Diao Yinan, Le Lac aux Oies Sauvages, hein, qui est une sorte de long film de cabale avec un coup du parapluie que je vous laisse découvrir quand le film sortira. Ouais. Et puis, carrosse d'or à John Carpenter, évidemment, qui a ouvert les festivités, la quinzaine des réalisateurs, le Zombie Child de Bertrand Bonello, un Takeshi Miike extraordinaire de lutte des gangs intriqués les uns dans les autres, ça s'appelle Premier Amour. Enfin, il y avait du grand bonheur
donc,
cette année.
Donc, c'était pour nous joie et réjouissance. Merci Antoine pour cette évocation de Cannes. Et maintenant, eh bien, ouvrons cérémonieusement, comme tous les samedis, notre encyclopédie pratique avec qui à la clé ce soir?
Eh bien, ce soir, je vous propose de découvrir Claudie Dadu.
Les cheveux tombent naturellement quand on se peigne, donc c'est un processus naturel de renouvellement du corps en fait. Il y en a qui meurent, il y en a qui repoussent, donc je récupère ces cheveux dans mon lavabo, voilà. Et après je les utilise, je les trie aussi selon les longueurs, parce que j'utilise la longueur, je joue avec la longueur, je joue avec le fait qu'on ne sait pas où est-ce que ça commence, où est-ce que ça finit, parce que ces cheveux finalement, entre autres, ont une longueur qui représentent le temps qu'ils ont passé sur ma tête. Donc il y a la question du temps aussi, qui est assez intéressante. C'est à la fois, ça représente une certaine fragilité, on se dit, bah, c'est le temps de vie, comme ça. Et en même temps, ça se conserve très longtemps, comme les os. Ça traverse le temps. Donc il y a une espèce d'ambiguïté, comme ça, voilà.
L'histoire a commencé très précisément sous une douche, il y a une quinzaine d'années, en observant des cheveux tomber sur la faïence du carrelage. Claudie Dadu y a vu des lignes, des débuts d'esquisses. Les cheveux allaient devenir la matière première de ses dessins, et rien de mieux que ce fil léger et ténu pour dessiner des corps, des visages, faire des portraits d'artistes ou même son propre autoportrait, Claudie Dadu s'étant représentée sous la forme d'un crâne digne d'une vanité. Cela donne des dessins aériens, on se demande comment ça tient, tout en délicatesse, jusque dans les images érotiques qu'elle aime représenter.
J'utilise l'image, elle est crue, hein, on a des images sexuelles, de gros plans, une représentation homosexuelle d'homme. On voit un sexe qui rentre dans un anus, il y a une main qui tient l'autre sexe. Bon voilà, ça je le décris d'une façon crue. En fait, ce que j'aime bien aussi dans les dessins porno, c'est de représenter les mains et les pieds, ce qui n'a pas forcément quelque chose de si pornographique que ça, mais en fait on a vraiment tout un jeu de lignes comme ça suspendues qui est finalement, moi je trouve ça assez élégant quoi. Et donc j'ai des images et je vais étudier un petit peu comment ça se passe, je vais faire quelques études, mais après c'est le cheveu que je vais installer directement qui va m'indiquer d'autres possibilités. Alors je dis pas plus parce que justement le secret, d'abord je travaille dans le secret puisqu'il y a personne, donc c'est vraiment un choix, soit je témoigne du comment ça tient, mais je trouve que l'idée du secret est intéressante parce que justement on n'a que cette question, et c'est cette question qui est vraiment essentielle, qui fait partie du travail. À quoi ça tient? À quoi ça tient la vie? Bon, c'est une petite pirouette, hein, avec à quoi ça tient la vie, ça tient peut-être un cheveu, etc. Mais ça représente aussi notre condition humaine, hein, parce que notre fragilité. Donc, il y a aussi la question des distances de point de vue qui est intéressante dans ce travail, puisque de loin, on ne voit pas grand-chose, on voit que des cadres blancs, hein, donc il faut s'approcher, et on voit un trait, souvent les gens captent pas tout de suite, ils sont un peu perplexes de dire « tiens, c'est bizarre, ce trait continue comme ça, qu'est-ce que c'est ?» Mais parfois, ils ne captent pas tout de suite que ce sont des cheveux. Donc, il y a toute cette approche et aussi l'incidence que ça peut avoir dans un espace où ils sont montrés. Ça donne des perspectives, ça ouvre des fenêtres. Ça fait comme des fenêtres, d'ailleurs. Donc, c'est ça qui m'importe, finalement, c'est d'ouvrir une fenêtre dans ce paysage du dessin contemporain. En fait, ça suscite la curiosité, ça suscite le déplacement. Voilà, c'est tout ce qui m'intéresse aussi dans d'autres travaux, d'autres artistes, quoi. C'est une chose que je pense qui nous intéresse tous, quoi, de susciter la curiosité.
Pour découvrir l'univers de Claudie Dadu, vous pouvez vous rendre sur son site www.dadu.fr ou la retrouver sur les réseaux sociaux. Et par ailleurs, elle expose son travail dans Tableau Fantôme, une exposition collective qui se tient en ce moment au Centre d'Histoire du Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette à Souchez, dans le Pas-de-Calais. Et c'est à voir jusqu'au 14 juillet. Et on la retrouve aussi dans le dernier numéro de la revue Féroce Cahiers Érotiques composée par Clément Gagliano, qui pour son 4e numéro a su jouer une fois encore avec le sensuel et le sexuel. www.revueféroce.fr.
Merci Céline pour cette entrée donc de notre encyclopédie pratique des mauvais gens. Fleur Hopkins, une réaction face au... à l'invité de Céline.
En voyant le travail de Claudie Dadu, je ne peux m'empêcher de penser effectivement au compte Instagram Les Petites Luxures, où on retrouve de la même manière une ligne qui dessine l'interpénétration d'accords, et c'est une même ligne qui montre la fusion des corps puisqu'elle ne s'arrête jamais. On est un peu dans cet érotisme de la ligne, comme dans son travail, oui.
Et Petites Luxures, de quoi s'agit-il ? Dites-nous en plus.
Un compte Instagram très licencieux et à la fois très pudique qui montre l'interpénétration sous toutes ses formes de corps féminin, masculin, mais toujours un trait unique qui dessine ses corps et souvent avec un jeu de mots bien trouvé pour signifier ce qui est en train de se passer.
Céline, vous connaissez les Petites
Alors,
Luxures ?
Alors non, je ne connais pas. Moi, j'étais restée sur les cheveux morts qui se reliaient les uns les autres pour créer aussi d'autres types d'interpénétration, mais je vais aller regarder de très près. Merci Fleur.
Voilà, l'heure est venue maintenant eh bien, de fusionner non plus les corps, mais les concepts, les univers du savoir, le merveilleux et la science, et de nous orienter vers l'exposition et le monde merveilleux scientifique de Fleur Hopkins. D'ailleurs, ajoute à mon oncle, entre cette voiture et le corps d'un vertébré, la ressemblance est frappante. Ici, Lerne réintégrait son domaine. Je prêtais l'oreille. Il poursuivit. Nous avons déjà les systèmes nerveux et musculaires représentés par les tringles de commande, les transmissions et les pièces d'effort. Mais le châssis, Nicolas, qu'est-ce donc, sinon le squelette où les tenons viennent s'insérer comme des tendons? Un sang de pétrole, l'élément vital, circule dans les artères de cuivre. Le carburateur respire, c'est un poumon. Au lieu de combiner l'air avec le sang, il le mélange aux vapeurs de l'essence, voilà tout. Ce capot ressemble au thorax où la vie bat en cadence, aux articulations jouent dans la synovie de même que ses rotules dans l'huile. À l'abri de la peau résistante du carter, voici des réservoirs, estomacs qui s'affament et se rassagissent. Voici phosphorescents comme ceux des félins, mais encore privés de la vue, voici des yeux, les phares, une voix, la sirène, un pot d'échappement dont la comparaison t'offusquerait, Nicolas. Enfin, il ne manque à la voiture qu'un cerveau dont le tien fait parfois l'office pour devenir une grande bête sourde, aveugle, insensible et stérile, sans goût et sans odorat. Un véritable musée d'infirmité, lançais-je, en éclatant de rire. Voilà un extrait du Docteur Lerne de Maurice Renard, tiré bien sûr de la superbe anthologie parue jadis grâce à Francis Lacassin et Jean Tullard dans la collection Bouquins à la Fond. D'ailleurs, un volume que nous recommandons à tous d'acheter puisqu'il est devenu assez rare. Alors Maurice Renard, Fleur Hopkins, c'est un petit peu le Saint Thomas ou le Saint Augustin du merveilleux scientifique. C'est l'homme qui en a édicté la théorie, jeté les fondements et surtout incarné le génie narratif et fictionnel, puisque toute son œuvre est est un peu placé sous l'invocation de ce concept qu'il a lui-même inventé. Mais avant cela, le merveilleux scientifique, faudrait peut-être pour nos auditeurs qui n'ont pas eu le plaisir de vous entendre déjà chez Nicolas Martin, par exemple, ou avec Philippe Garbi, évoquer un peu les dates, évoquer un petit peu les théories, la définition conceptuelle du merveilleux scientifique. Vous évoquez la belle époque. On sait qu'en 1905, c'est la mort de Jules Verne, donc une époque s'achève, qui n'est pas celle de Maurice Renard, puisqu'on va voir que Verne n'est pas revendiqué comme un de ses grands ancêtres. Et puis, on court jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est toute cette période singulière qui va d'à la fin de l'impérium vernien jusqu'au véritable début de la science-fiction.
Ce n'est pas un hasard si le mouvement merveilleux scientifique, il apparaît en 1909. Il s'inscrit vraiment dans une période...
On peut le dater, 1909.
Avec l'apparition du texte manifeste de Maurice Renard dans un journal qui s'appelle Le Spectateur. Et son texte, il va vraiment le reconnaître comme un texte manifeste, comme un acte fondateur. Il le dira dans différentes correspondances. Par ce texte, il veut faire rien de moins que créer un genre littéraire à part entière qui s'appelle le merveilleux scientifique et dont il estime que certains précurseurs seraient Rony Aîné, l'incontournable pour les Xipéuses, H.G. Wells pour La Guerre des Mondes, Son Homme Invisible, etc. Et ce que dit très justement Maurice Renard, c'est que Wells et Jules Verne ont failli là où lui va réussir. Il va arriver à créer une nouvelle forme de roman scientifique qui s'appelle précisément le roman merveilleux tiret, vous l'avez bien dit, trait d'union scientifique.
Alors, le trait d'union scientifique, quelle est la fonction du trait d'union, puisque il y a eu un colloque il y a deux jours important où justement on a évoqué la fonction du trait d'union. Alors, s'agit-il d'une fusion, s'agit-il d'une greffe, s'agit-il d'un dépassement dialectique, d'un parasitage? Comment arrive-t-on à positionner le merveilleux par rapport à la science, puisque traditionnellement on a dans l'histoire des sciences l'idée que il y a l'âge de la foi, il y a l'âge de la superstition, tout cela est évidemment dépassé par l'âge de la raison et l'avènement de la raison technicienne, et bon, l'un succède à l'autre. Là, au contraire, qu'est-ce qu'il y a, un retour du refoulé où justement on tente d'équilibrer un petit peu les sorts ennemis?
Ce trait d'union, il est absolument fondamental. L'expression merveilleux scientifique, elle existait déjà sous la plume du physiologiste Joseph-Pierre Durand de Gros, qui en 1894 publie son essai « Le merveilleux scientifique ». Attention,
donc l'expression existait
sans trait d'union.
Déjà sans trait d'union.
Absolument. Elle était déjà diffusée. Et ce n'est pas un hasard si Maurice Renard la réemploie, parce que cette expression, à mon sens, elle résume bien à la fois la modernisation du conte de fées. C'est le merveilleux, il le dit très bien, qui est obligé de se scientiser pour ne pas mourir. Perrault est obligé de troquer ses miroirs magiques.
Donc une actualisation.
Tout à fait. Et à la fois, n'oublions pas qu'on s'inscrit dans l'époque de la fascination pour les sciences de l'invisible, les sciences de l'inconnu, comme le disait bien Camille Flammarion. Et dès lors, on est dans un mouvement de rationalisation de tout ce qui paraissait surnaturel. La télépathie, la lévitation, la communication avec les spectres. Donc on a vraiment ce double mouvement, à la fois, je le disais, modernisation du conte de fées et rationalisation du surnaturel. Et quelque part, ce trait d'union, vous l'avez soupçonné, c'est une greffe. Et ça tombe très bien qu'on ait lu en introduction un extrait du docteur Lerne, puisqu'il me semble vraiment qu'on est dans un cas d'hybridation générique où on a du mal à savoir qui est le greffon et qui est le porte-greffe. Est-ce que c'est le roman scientifique qui devient merveilleux? Est-ce que c'est la merveille qui se scientise? On est dans un jeu de balance et Maurice Renard, sans cesse, va essayer d'équilibrer les deux termes.
Justement, parce que les esprits un peu inquiets pourraient vous dire que la greffe réussit ou ne réussit pas. Il y a ce qu'on appelle, pendant longtemps, la greffe du cœur était hélas ponctuée par des phénomènes de rejet. Le corps refusait le cœur et donc la personne décédait. Alors là, c'est pareil. Est-ce que le roman scientifique va accepter le greffon du merveilleux? Donc il y a cet aspect, puis il y a aussi l'aspect du parasitage. Est-ce que ce ne serait pas une manière d'inquiéter, de troubler, de faire vaciller la raison, dont on sait quand même qu'à la fin du 19e et surtout à la belle époque, elle est quand même sur ses campées, dans ses certitudes, dans ses théories, aussi bien à la Sorbonne qu'au Collège de France, que véritablement on est dans le monde du scientisme et de la domination scientifique. Est-ce que le merveilleux n'est pas utilisé là comme un petit peu une sorte de, un peu comme Esmeralda et donc Claude Frollo? Pas là pour le troubler. Je renvoie à une autre époque encore de l'imaginaire. Elle n'est pas là un peu pour justement l'enivrer, le dérouter.
Maurice Renard le dit bien mieux que moi. Il dit qu'il essaye de réfléchir aux menaces imminentes du possible. Et dès lors, l'incursion du merveilleux dans une trame rationnelle, scientifique, elle permet précisément de penser à la fois la mélancolie scientifique, les dangers qui nous viennent de la science, et quelque part préparer le lecteur à ce qui pourrait advenir dans les pires cas de scénarii possibles.
Jean-Luc Rivera.
C'est intéressant parce que moi, je me faisais la réflexion quelque part exactement inverse. Comme vous l'avez souligné auparavant, le fin du 19e siècle, début du 20e, c'est l'âge de la raison. On reprend tout ce qui était phénomène dit surnaturel et on les rationalise. Et est-ce que là, ça n'est pas la même chose? On rationalise le merveilleux en y rajoutant du scientifique. Donc c'est une démystification, quelque part, du conte merveilleux.
Je pense qu'il y a vraiment une tension perpétuelle, effectivement, entre modernisation du conte de fées, où tout ce qui vont être les adjuvants magiques habituels du conte de fées deviennent rationnels par le truchement de la science. On n'a plus un miroir magique, on a une plaque de luminite dans Le Maître de la Lumière de Maurice Renard. Mais tout à la fois, effectivement, on a ce mouvement de rationalisation de ce qui était surnaturel. Et dans le cadre des intrigues, cela arrive par le biais de machines. Je pense par exemple au texte de Clément Vautel, La machine à fabriquer des rêves, le titre est très évocateur, où c'est une machine qui permet de créer des rêves à volonté. Donc on est vraiment dans un jeu de tension perpétuelle, et c'est peut-être pour cela que Maurice Renard se rendra compte que l'intitulé de son genre pose problème, notamment à la Nouvelle Revue Française, et qu'il lui faudra sans cesse changer cette appellation un peu trop antinomique, quelque part.
Antoine Guillaume.
À l'inverse de ce que dit Jean-Luc Rivera, moi j'ai été fasciné par les généalogies que vous faites des différents sous-genres du merveilleux scientifique à partir des découvertes scientifiques de l'époque. Et je pense qu'on a peine à se représenter maintenant l'impact dans l'imaginaire qu'ont eu la découverte des rayons X, du radium ou même des microbes par Pasteur. Moi j'ai été fasciné par ce livre qui s'appelle Une invasion de macrobes, oui. D'abord par les illustrations qui sont absolument magnifique d'André Devambaise. On n'est pas loin d'un Gus Boffa de l'époque, mais un Kilofer d'aujourd'hui pourrait les signer, où on voit donc des macrobes, c'est-à-dire des microbes géants qui envahissent la ville de Paris, qui détruisent tout sur leur passage, avec des légendes extraordinaires. C'est ce macrobe qui a détruit tout le quartier à côté de la Tour Eiffel et où il y a marqué « Alors, je m'engageais dans une course éperdue » où ces humains qui essayent de grimper le long de la Tour Eiffel pour monter. Tout ça, ça vient de la fascination pour un être nouveau, donc et pas la réactualisation de fantasmes anciens. Tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a une vie qui grouille et qu'elle peut nous détruire. Alors, on va la rendre très visible, comme sous un microscope, pour pouvoir montrer l'horreur de ces êtres qui ne ressemblent à rien.
Absolument, les thèmes de l'altérité, de l'autre humanité, du surhomme, ce sont des thèmes qui vont vraiment être prégnants dans le merveilleux scientifique, avec cette idée peut-être qu'il y a des peuplades délétères autour de nous. Je pense à différents petits contes de Maurice Renard, mais aussi d'autres récits comme Les chasseurs d'hommes de Thévenin, où on a une peuplade vampirique invisible. On a quantité de récits qui vont tirer ce fil. Et effectivement, toutes les découvertes, notamment en microbiologie, vont alimenter cette idée qu'il y a des êtres autour de nous qui nous manipulent, qui sont délétères, et peut-être même des humanités cachées dans des terres creuses qui ont évolué différemment de l'homme. Donc absolument, tout le mouvement littéraire du merveilleux scientifique s'alimente, se nourrit au contact des sciences et aussi, n'oublions pas, des pseudo-sciences qui lui sont contemporaines. On a autant ce qui va toucher au fakirisme, aux découvertes qui touchent aux rayons, des rayons imaginaires comme le rayon ardent, le rayon N. On a beaucoup de spéculations et Maurice Renard notamment était un ardent lecteur de la science illustrée et de la nature. Donc des connaisseurs et on a même des hommes de science dans ce florilège d'auteurs. André Couvreur, Octave Béliard étaient eux-mêmes des praticiens.
Alors justement, la question se pose du recrutement des auteurs, puisque si c'est une volonté de questionner scientifiquement un univers qui ne l'est pas, l'univers du merveilleux ou du fantastique, il faut quand même disposer d'une sorte de culture de base ou d'une mentalité scientifique, ce qui n'est pas forcément la chose de nombreux écrivains de l'imaginaire à cette époque et de feuilletonistes et autres. Qui sont-ils et d'où viennent les auteurs emblématiques du merveilleux scientifique?
Alors nous avons de tout et c'est pour ça que sur le premier panneau de l'exposition, on trouve l'image de la nébuleuse. C'est vraiment une métaphore utile pour parler d'un brouillard, de rencontres heureuses entre différents auteurs. On va avoir à la fois des auteurs connus du public, comme Gaston Leroux, comme Maurice Leblanc, des noms qu'on ne s'attend peut-être pas à trouver ici. On a des académiciens, comme Claude Farrère, comme André Mauroy. Et puis on a quantité d'auteurs qui ont un petit peu plus œuvré dans le roman d'aventure, des gens comme Jean de La Hire, Gustave Lerouge, René Thévenin. Et puis des auteurs symptomatiques, inébranlables, Jean de Kyriel, Maurice Renard, et de nombreux médecins, je l'ai dit, André Couvreur, Octave Béliard. Donc on a de tout, et ce qui va vraiment les réunir, c'est ce souhait toujours, non pas de placer leur intrigue dans le futur, mais dans le présent connu du lecteur, et d'y altérer une unique loi, physique, chimique, biologique, physiologique, et c'est de cette altération que naîtra la suite du récit qui doit être profondément rationnelle.
Le merveilleux scientifique à l'honneur ce soir à Mauvais Genre, après l'émission qu'on a consacrée à Rétrofiction. Vous vous souvenez, Jean-Luc Rivera, la monumentale encyclopédie de Coste-Altérac sur l'imaginaire français. Donc, deux volumes qu'il faut posséder. Et là, on resserre un peu le cadre grâce à vous, Fleur Hopkins, et grâce surtout à cette exposition visible jusqu'au 25 août à la Bibliothèque Nationale. Alors, on note quand même qu'il y a une communauté réelle et importante des conteurs et des romanciers du merveilleux scientifique. Des illustrateurs absolument extraordinaires, que ce soit les couvertures, les illustrations in-text qu'on peut voir et apprécier, comme en parlait Antoine, donc à l'exposition. Mais il y a également la nécessité d'accomplir le meurtre du père. Et là, le père, c'est Jules Verne. Alors, c'est intéressant de savoir ce que Verne a commis comme crime pour être réfuté par Maurice Allard, indépendamment du fait que quand même entre 1862 et 1905, on a beaucoup vu, on a beaucoup lu, et on a beaucoup parlé de Jules Verne, qui était quand même une personnalité française mondialement connue, qui a un peu barré l'horizon en matière d'imaginaire, de littérature populaire, imaginaire scientifique. Peut-être qu'après 1905, 1909, de fait, on a besoin de respirer un peu en dehors de Jules Verne, mais très précisément, quels sont les arguments de Verne pour réfuter, entre guillemets quand même, Jules Verne et puis Robida également qui fait partie du lot.
La question du parricide effectivement se pose pour Maurice Renard puisque pour légitimer son genre, pour vraiment faire un acte de naissance, il faut éliminer ceux qui auraient pu lui faire de l'ombre. Donc dès son texte manifeste de 1909, il va dire de manière très catégorique, Jules Verne n'a jamais écrit une seule phrase de merveilleux scientifique. Pour lui, Jules Verne était avant tout quelqu'un qui voulait divertir et enseigner des rudiments scientifiques. Et il extrapolait sur des découvertes scientifiques qui étaient contemporaines, comme par exemple le sous-marin qui avait été testé dans la Seine par Fulton dès 1801. Et ça ne plaisait pas du tout à Maurice Renard, parce que Maurice Renard aspirait véritablement, il le disait, à faire comme une valse, un concert de jazz avec son lecteur, et à lui faire vivre une expérience de pensée qui est assez similaire au projet du roman expérimental, cette idée de tester l'influence du milieu, de l'environnement, sur son héros qui serait métamorphosé par des découvertes scientifiques inattendues. Donc
c'est
pas
ça,
de vulgarisation.
C'est ça, côté expérimental, on immerge
absolument
une vérité scientifique dans un bain de merveilleux et on voit ce qui se passe.
Et qu'est-ce qui se passe? On teste.
Donc, c'est quoi le cas de Verne?
On ne veut pas enseigner des rudiments scientifiques, on ne veut pas non plus être dans l'amusement. Il y a une forme de gravité intellectuelle, il parle bien d'expérience de pensée, de laboratoire, il parle même de vivisection.
Une gravité intellectuelle chez Jules Verne, là, je vais me faire l'avocat.
Pour Maurice Renard, non, mais vous avez tout à fait raison. Et pour ce qui est de Robida, ce qui lui déplaît, je pense que c'est le côté drôlatique. Le fait qu'on s'amuse de cette société future à grand renfort d'illustrations, ça déplaît visiblement à Maurice Renard. Mais c'est surtout avec Jules Verne qu'il est très dur, même s'il reconnaîtra en fin de carrière que Jules Verne n'était rien de moins que le maître du vertige.
C'est pas mal, le maître du vertige, Antoine Guillot.
Oui, je suis d'accord, mais alors à qui s'adresse-t-il cet homme, ce Maurice Renard? C'est-à-dire, quel est son lecteur idéal? Est-ce qu'il s'agit de quelqu'un qui, comme lui, lit régulièrement les revues scientifiques? Et est-ce qu'on a des données pour savoir qui étaient les lecteurs de ces livres? À combien ils étaient tirés? Quelle était leur réception à la fois publique et critique?
Maurice Renard avait de grandes ambitions, c'était vraiment celle de créer un genre littéraire noble. Et c'est pas pour rien qu'il a souhaité notamment être publié dans le Mercure de France. Il voulait vraiment un lectorat féru de littérature.
Alors, pas la NRF, mais le Mercure de France.
Oui.
Intéressant à noter.
Tout à fait.
Puisque la vraie modernité, censée être la modernité, c'est celle de la NRF. Le Mercure de France est l'héritier quand même d'une fin de siècle que normalement devrait réfuter Maurice Renard. Mais néanmoins, c'est dans le Mercure.
Et malheureusement pour lui, il sera mal reçu à la NRF, notamment par Copeau et Rivière, qui soupçonnaient ses récits de n'être pas assez psychologiques et voilà, de ne pas rentrer dans les codes de l'époque. Donc Maurice Renard, lui, vraiment, il aspirait à faire un genre reconnu, apprécié, un genre avec une vraie qualité littéraire. Et il disait très souvent dans ses archives que la science était là en soubassement pour soutenir une intrigue qui devait être extrêmement bien ficelée, bien documentée. Et donc du coup, moi, j'ai consulté ces feuillets de rédaction d'époque et je voyais que notamment, il prenait en note des phénomènes scientifiques, une petite flèche, je dois écrire un roman inspiré d'une pluie aérolite, de salamandres sur le soleil, etc., etc. Pour ce qui est du nombre de tirages, c'est plus confidentiel, c'est difficile de vraiment cartographier à l'époque la réception de ces romans. Je peux tout de même, par exemple, signifier que Guillaume Apollinaire a dit du fameux docteur Lerne qu'on a découvert un petit peu plus tôt que c'était le roman subdivin des métamorphoses. C'est quand même, il me semble, un très beau compliment. Rachilde aussi, dans le Mercure de France, encensait les romans de Maurice Renard disant qu'il mériterait un Goncourt. Mais effectivement...
Donc le premier Goncourt a quand même été décerné à un romancier de science-fiction.
John Antoineau avec La Force ennemie, voilà. Tout à fait, un récit qui ressemble ressemble un petit peu à Orla de Maupassant, quelque part, cet extraterrestre qui fait son body snatcher et rentre dans un corps humain pour tester l'habitabilité de la planète Terre. Mais finalement, si l'on regarde Maurice Renard et qu'on étend notre lorgnette aux autres auteurs, on se rend compte que ces auteurs-là vont principalement publier dans des collections qu'on qualifierait de populaires aujourd'hui, Ferenczi, Talandier, Pierre Lafitte, et ils vont publier notamment en feuilleton dans des journaux comme Le Matin, L'Intransigeant, Grand Tirage, et puis Lecture pour tous et Je sais tout. Donc là où Maurice Renard voulait un genre élevé et noble, le genre se diffusera plutôt dans la presse populaire, effectivement.
Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de voir justement que des deux côtés de l'Atlantique, c'est ce genre de roman va se diffuser, mais que, comme vous l'avez souligné, l'aspect français, on veut que ce soit quelque chose de sérieux, etc. Et c'est, je pense, ce qui va faire la grosse différence avec ce qu'on pourrait appeler la proto-science-fiction américaine, parce qu'à la même époque, il y a des auteurs comme Edgar Rice Burroughs, comme Abraham Merritt, etc., où là, la science est conquérante, alors qu'en France, elle est inquiétante. Me semble-t-il.
C'est ça, le lexique, c'est vraiment, ça touche à la menace. J'emploie souvent le terme de mélancolie en pensant à un auteur comme Guy de Terramont, qui très souvent montre que son savant est éliminé, nettoyé, presque disparu de la surface du globe par sa création. Et on a un très beau conte qui est la dernière découverte du reporter, dans lequel on pense qu'il a inventé une possible machine à voyager dans la quatrième dimension. Il monte dedans et elle s'abîme dans l'eau sans que l'on ne sache jamais si elle a fonctionné. Et ce motif, effectivement, de la disparition, plutôt de la dissolution de l'être, amené aussi à être remplacé par d'autres espèces, comme notamment dans La mort de la Terre de Rogny Aîné, c'est assez prégnant dans Le Merveilleux Scientifique, oui.
Alors, Merveilleux Scientifique, à la belle époque, certes, à l'époque de l'exposition universelle, les triomphes de l'industrie française, des brevets, tout cela. Mais quand arrive la Première Guerre mondiale, au lendemain de la Première Guerre mondiale, puisque la Première Guerre mondiale est centrale dans la durée que vous étudiez, Fleur Hopkins, on peut pas dire que la science, on parlait des surréalistes, soit toujours la mieux venue pour donner des leçons d'humanisme et de rationalité et montrer qu'on est là pour être en tête et montrer la bonne direction à la civilisation humaine. Alors, comment le Merveilleux Scientifique a-t-il réagi à la Première Guerre mondiale? Est-ce qu'il s'en est accommodé? Est-ce qu'au contraire, il a joué les vigies, les lanceurs d'alerte, comme on dirait aujourd'hui? Ou est-ce qu'au contraire, ça lui a mis un sérieux coup dans l'aile et qu'après, je dirais, le merveilleux, la science, ça continue à se maintenir, mais que le merveilleux était peut-être un petit peu en décroissance?
Alors effectivement, il ne faut pas oublier que cette expression merveilleux scientifique, c'est une forme d'hybridation. Le terme merveilleux peut être compris de plein de manières différentes, que ce soit surnaturel, conte de fées, pourquoi pas, mais aussi mirabilia. Et donc dès lors, cette idée de surnaturel, d'inattendu, il va au contraire être réalimenté par le conflit mondial. On ne va pas avoir de rupture nette dans le mouvement merveilleux scientifique après 14, et on aura même à plus forte raison certains des plus beaux textes du merveilleux scientifique qui seront publiés à cette occasion. Je pense notamment à L'homme truqué de Maurice Renard, publié dans Je sais tout en 1921, qui nous raconte le destin tragique de Jean Lebris, aveugle sur les champs de bataille, qui reçoit des électroscopes à la place des yeux, qui lui révèlent la présence d'étranges orbes lumineuses qui sont peut-être quelque part des microbes, on parlait de macrobes, des microbes améliorés qui sont là pour anéantir l'humanité. Et donc dès lors, le premier conflit, il va simplement renouveler les thématiques en enrichissant notamment ce qu'on appelle aujourd'hui l'homme augmenté, le transhumanisme, parce qu'on aura quantité de récits qui vont nous parler d'hommes aux yeux de chat, de nyctalopes, de créatures qu'on essaie de transformer en post-TSF. Donc simplement renouvellement des thèmes, mais pas rupture catégorique.
C'est-à-dire qu'il y a toujours cette espèce de fébrilité et de vertige qui est toujours présent chez les auteurs de Merveilleux Scientifiques et qui s'est, je ne vais pas dire accommodé, mais qui a intégré la coupure de la guerre mondiale.
C'est ça, on se nourrit de ce qui s'est passé sur les champs de bataille pour en faire un nouveau terrain d'exploration, que ce soit chez Rogny Aîné avec le pauvre Pierre de Givreuse qui va être dédoublé par une expérience malheureuse de presque une partition cellulaire qui va avoir lieu sur les champs de bataille, ou je le disais, le soldat Jean Lebris. Mais on a quantité de récits qui prennent part, effectivement, sur le champ de bataille de la Première Guerre mondiale.
Alors on évoque depuis le début de cette émission la figure de Maurice Renard. On peut rapidement dire un peu quel a été son parcours en tant qu'homme de lettres.
Alors,
est-ce qu'il y a eu une évolution ou est-ce qu'il a été l'homme d'une trouvaille, de quelques livres? Au contraire, le personnage a véritablement eu un parcours littéraire plus ample que celui du Merveilleux Scientifique.
Alors Maurice Renard, son premier amour, effectivement, c'était le Merveilleux Scientifique. Il se recommandait de Wells, on l'a dit, mais aussi de Poe, dont il avait un portrait accroché dans son petit cabanon du Clos Saint-Vincent, qui était un de ses premiers pseudonymes. Il a publié de très nombreux récits Merveilleux Scientifiques, on l'a dit, on a parlé du docteur Lerne, on a différents recueils, notamment des des récits avec Monsieur d'Outremort, on a quantité de romans. Mais malheureusement pour lui, la Première Guerre mondiale va représenter une coupure, cette fois non pas thématique, mais financière. Sa maison de Reims est bombardée et il a commis quelques petits impairs conjugaux. Il va être désargenté à cause d'une histoire d'adultère. Et dès lors, malheureusement pour lui, il va devoir se refaire une santé en se consacrant à, quelque part, un travestissement du merveilleux scientifique. Et il va produire de plus en plus de textes qui vont parasiter le merveilleux scientifique par du policier, par de l'amour, par de l'aventure, pour tout bêtement séduire un lectorat plus large et être mieux apprécié de la critique. Mais tout au long de sa carrière, il va tout de même œuvrer pour la reconnaissance de ce merveilleux scientifique, notamment avec un prix, le prix Maurice Renard, à la Société des gens de lettres, dont il finira tout de même vice-président à la fin de sa carrière.
Et effectivement, un vice-président de la Société des gens de lettres, un jour il a passé la main, nous sommes le 22 mars 1937. Ce jour-là, Maurice Renard s'exprime en public à la Société des gens de lettres.
Je sais que tous ensemble, attelés à la besogne, nous pourrons mener à bien la double tâche qui s'impose, maintenir haut à la place qui est la sienne notre société et améliorer dans les dures circonstances de l'époque actuelle les conditions matérielles de la vie de l'écrivain. Je passe la parole à Maurice Renard, premier vice-président.
Mesdames, messieurs, appelés à la vice-présidence de la Société des gens de lettres de France par l'amitié de mes collègues, je suis heureux de pouvoir seconder ainsi une femme au grand cœur qui est une remarquable administratrice, Madame Camille Marbeau, dont la présidence nous permettra de continuer l'œuvre de rénovation déjà poussée si loin par son brillant prédécesseur, mon grand ami Jean Vignaud.
Réaction, Fleur Hopkins.
Très ému d'entendre la voix de Maurice Renard, évidemment. C'est la première fois que j'entends sa voix, parce que de nombreux enregistrements ont été perdus. Donc, très ému. Et effectivement, Maurice Renard, on l'ignore, il a décliné la proposition de devenir président de la Société des gens de lettres pour laisser sa place à une femme.
Et effectivement, on entend cette voix de notable, ce qui pourrait être, d'ailleurs, on dit que c'est Maurice Renard, mais ça pourrait être la voix, Antoine Guillaume, n'importe quel notable, assez opulent et assez confiant.
On sait que ce sont les plus redoutables. Non, mais je voulais préciser quand même que Maurice Renard aura au moins une postérité, c'est qu'il a donné l'argument avec un de ses romans, d'un des grands thèmes de l'horreur cinématographique. Il y a 4 films qui reprennent ce roman, c'est Les Mains d'Orlac. Les Mains d'Orlac, d'ailleurs, on voit une publicité dans l'exposition. Aujourd'hui, lisez notre nouveau roman, Les Mains d'Orlac par Maurice Renard. Ça donnera rien moins que Les Mains d'Orlac par Robert Wynne, Les Mains d'Orlac 1935 par Karl Freund, Les Mains d'Orlac encore par Edmond Tégréville. Alors, c'est dire si on est au-delà du mauvais genre. Et encore un film américain. Voilà. 4 films avec Peter Lorre, Mel Ferrer, Conrad Veidt. Donc, je pense que les gens qui voient toutes ces versions successives des Mains d'Orlac ont complètement oublié ce Maurice Renard à l'origine de ça. Et c'est encore une découverte scientifique de l'époque, c'est les travaux sur le, on parlait des greffes monstrueuses, c'est le travail sur la greffe, puisque c'est ce pianiste qui se fait greffer les mains d'un assassin. Voilà, c'est Carrel qui
même
travaille dessus
des crimes.
Voilà.
Maurice Renard était effectivement très influencé par les travaux d'Alexis Carrel, et il y fera référence notamment dans le Docteur Lerne, parce que, par exemple, Alexis Carrel et Charles Guthry avaient réalisé une greffe de tête de chien sur le corps d'un canidé entier et vivant.
Quelle a été la réception du milieu scientifique, j'allais dire des principaux intéressés, quelques médecins parmi les auteurs de merveilleux scientifiques, mais les scientifiques eux-mêmes, quelle a été leur réaction?
Dur de trouver des témoignages, mais ce qu'on peut quand même constater, c'est qu'à l'époque, nombre de ces feuilletons étaient publiés dans des publications spécialisées très sérieuses. Les Petits Hommes de la Pinette d'Octave Béliard, par exemple, étaient publiés dans l'Association Médicale, un vrai journal sérieux médical, et un autre récit d'Octave Béliard, toujours ce médecin, dans le Décapité vivant, il publie ce récit dans la France judiciaire. Donc on trouve ces textes dans des revues très étonnantes qui montrent tout de même qu'ils étaient peut-être pas pris au sérieux, mais accueillis dans un cénacle un peu sérieux.
Justement, ça pose la question de la réception. Moi, je reviens à cette question de la réception, parce que comment ces textes étaient-ils lus? Puisqu'il y a une ambition chez Renard, à la fois de moderniser le conte de fées, ou d'inquiéter la science en propulsant, je dirais, une démarche scientifique, des théorèmes scientifiques, des découvertes à l'intérieur d'univers qui sont des univers douteux, comme il le dit lui-même, sophistiques, enfin des univers qui ne sont pas du tout assurés sur le plan logique, et de voir un peu ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui a fini par prédominer? Est-ce que c'est le merveilleux ou le scientifique? Si on essaie de jauger un petit peu dans les équilibres du lectorat, est-ce que les gens ont été amenés à la science par Maurice Renard, ou est-ce qu'au contraire les scientifiques y ont trouvé un divertissement et un sourire?
Plutôt la seconde proposition, je pense, puisqu'on a de nombreux écrivains qui étaient eux-mêmes scientifiques, hommes de science. J'ai parlé d'Octave Béliard, André Couvreur, mais aussi Henri-Jacques Proumaine, par exemple. Donc je pense que c'est plutôt la seconde proposition qui prévaut. Et de toute manière, Maurice Renard n'avait pas prétention à enseigner véritablement des concepts scientifiques, vu qu'ils sont souvent un peu tirés par les cheveux.
Jean-Luc Rivera.
Ça me semble très net lorsqu'on regarde les éditeurs, spécialement après la Première Guerre mondiale. Les éditeurs, c'est ce qu'on appelle les éditeurs populaires. Vous avez cité Ferenczi, Talandier, Rouff, etc. C'est-à-dire, on n'est pas chez Gallimard. Et le lectorat, c'est un lectorat aussi très populaire. Ce sont des livres qui sont vendus pas cher, qu'on peut mettre dans la poche de la salopette pour lire dans le métro ou dans le train en partant au travail. Donc c'est vraiment devenu, me semble-t-il, une littérature complètement d'évasion, c'est-à-dire à l'opposé quelque part de ce que souhaitait Maurice Renard, mais en même temps, il me semble que c'est le plus beau des succès pour le genre, c'est que tout le monde le lit.
Fleur Hopkins.
Oui, tout à fait, tout à fait. Peut-être, malheureusement pour Maurice Renard, il n'a pas réussi à en faire un genre noble comme il aurait souhaité, notamment au sein de la Société des gens de lettres. Mais quelque part, si on le redécouvre aujourd'hui, c'est pour la force de ses magnifiques couvertures, de ses illustrations internes. On parlait un peu plus tôt des illustrateurs, des gens comme Georges Vallée, Maurice Toussaint, le formidable Henri Lanos, qu'on retrouve justement dans l'exposition. C'est précisément parce qu'on a quitté un peu ces couvertures muettes de Crèze, des œuvres libres, et qu'on va dans l'édition plus populaire, qu'aujourd'hui on a un énorme plaisir à redécouvrir tout ce patrimoine.
Il y a aussi, revenons à ce refus par Gallimard et la NRF de Maurice Renard du Merveilleux Scientifique. Il y a aussi quand même la nécessaire dimension scopique, visuelle, graphique, plastique du Merveilleux Scientifique. À ce colloque qui s'est tenu et à l'exposition que vous présentez, pendant toute la durée, donc c'est dans une espèce de grande travée de la BNF, on voit défiler mais des couvertures qui, si on les a en main, sont des petites couvertures un peu déteintes, un peu abîmées, et qui ont été donc scannées d'un très haute définition et agrandies. Et là, le fait qu'elles soient agrandies révèle des visionnaires et des artistes extraordinaires. C'est un test pour une image. D'ailleurs, quand on l'agrandit, si sa structure résiste, et là, elle résiste absolument magnifiquement. Effectivement, l'univers, vous me direz, c'est un peu pareil du Mercure de France. Le jaune de Valette était quand même définitif. Mais l'univers de l'NRF n'est pas un univers visuel. Ça, c'est très clair. Il a fallu Malraux pour amener un peu de visualisation dans tout ça. Ils avaient quand même des collections du roman d'aventure. Il y avait quand même un petit peu. Mais cette espèce de charge visuelle extraordinaire du Merveilleux Scientifique, elle est un peu en rupture avec l'édition de l'époque.
C'est ça, absolument. Et justement, je pense que Maurice Renard aurait été peut-être déçu. Je n'ai pas trouvé trace, très malheureusement, de la réception des couvertures. Je sais que des gens comme l'Abbé Bethléem trouvaient qu'elles étaient criardes, qu'elles étaient frappantes au visage. Mais je ne sais pas du tout comment les auteurs d'époque ont reçu leurs couvertures, s'ils les ont appréciées ou pas. Ce qui est sûr, c'est que nous, on les redécouvre vraiment avec plaisir, des gens comme Armand Gol, comme Georges Vallée. Et aussi, il y aurait un dialogue très intéressant à proposer avec tout ce qu'on appelle les récits sous images, dans les journaux comme La Jeunesse Illustrée, Les Belles Images, Les Jeudis de la Jeunesse, qui étaient extrêmement lus aussi. On voit nécessairement que des gens comme Géry, Valvérane, Thomène ont été contaminés, pas seulement par le genre littéraire merveilleux scientifique, mais par un état d'esprit qui, en fait, est à l'image du siècle. Ce mot de merveilleux scientifique, il permet de résumer de manière très élégante un état d'esprit caractéristique de cette époque.
Jean-Luc Rivera.
Oui, j'étais en train de me poser la question parce que j'ai connu, comme un certain nombre de gens, Maurice Lima, qui était l'un des derniers survivants donc de cette grande époque d'avant la guerre. Et dans les discussions qu'un certain nombre d'entre nous ont pu avoir avec Maurice Lima, je pense qu'à l'époque, la préoccupation principale des auteurs dans ces collections populaires, c'était d'être publié, peu importe l'emballage. Ce qui comptait, c'était le revenu qu'ils pouvaient tirer. Je ne crois pas qu'ils se posaient vraiment la question, mais nous, on est bien contents d'avoir ces belles couvertures.
Flora Hopkins, pour conclure.
Être publié, oui, et surtout en feuilleton, c'était une obsession notamment de Maurice Renard. Il avait essayé d'être publié dans le Figaro. Il avait même dédié un de ses textes à Boissière et ça n'a pas fonctionné.
Et alors, donc, ni NRF, ni Figaro. En tout cas, si vous voulez aller à la rencontre du Merveilleux Scientifique, je recommande la collection Les Orpailleurs, créée par la BNF. Il y a déjà plusieurs volumes de parus, dont Maurice Renard, le maître de la lumière, mais mais d'autres titres également, Fleur Hopkins.
On a Théo Varley, La Grande Panne, on a La Mort de la Terre de René Aîné, on a L'Androgyne de Couvreur, autant de textes qui ont très bien vieilli et qu'on redécouvre avec grand bonheur.
Et puis dans la collection Bouquins, plusieurs auteurs phares du merveilleux scientifique, et notamment Maurice Renard, un volume à ne pas manquer. Christophe Beer. Christophe Beer, c'est un peu plus tard, et d'ailleurs il va revenir sur cette thématique de ce soir. Jean-Luc Rivera, chronique pour clore.
Alors une petite chronique, alors pour rester dans le cadre de la vieille SF au sens large, on va traverser l'Atlantique, on va passer à l'âge d'or des pulps américains avec Aux limites de l'infini de Stanley G. Weinbaum, qui est un recueil de nouvelles de ce qui a été l'un des plus grands auteurs de l'époque, à la carrière malheureusement trop courte parce qu'il est mort à 33 ans en 1935. Et les éditions de l'Arbre Vengeur ont donc eu la bonne idée de nous proposer dans une traduction inédite sept nouvelles de cet auteur, dont celle qui a établi pour toujours sa gloire, à savoir Odyssée martienne, qui était sortie en 34 dans Weird Stories, et dans laquelle un terrien se retrouve accompagné d'un martien à l'apparence d'oiseau, surnommé Twill, qui l'aidera à survivre, alors qu'aucune communication ne pourra jamais s'établir véritablement entre eux. Il y a juste une sorte de compréhension. Et Asimov, il faut le dire, désignait ce texte, l'Odyssée martienne, comme l'une des trois histoires qui ont changé la science-fiction. Donc à découvrir ou à redécouvrir, Stanley Weinbaum, imagination et humour au menu de la très grande science-fiction.
Merci Jean-Luc, et je rappelle dans votre exposition, Fleur Hopkins, en attendant la parution de votre riche volume sur le sujet, c'est à la BNF sur le site Mitterrand jusqu'au 25 août. Traversée de l'Atlantique avec vous, Antoine, pour l'exposition Jack Kirby au musée Thomas-Henri de Cherbourg.
Traversée de l'Atlantique, pas forcément dans le sens que vous croyez, parce que figurez-vous qu'au moment où on célèbre les 75 ans du débarquement...
Mais c'est plutôt lui qui vient vers nous.
Lui, il est venu vers nous, et il est venu vers nous dès le 23 août 1944, puisque Jack Kirby a fait partie des troupes de débarquement. Il est allé se battre pour la libération de Metz. Il est allé jusque-là. Alors, Jack Kirby à Cherbourg, c'est un événement absolu. D'abord, parce qu'on a rarement l'occasion de voir des planches originales de Jack Kirby, et en plus, il n'y en a pas que de lui. 217 œuvres originales sont exposées ici, qui viennent toutes de collections européennes, et pas du tout des États-Unis, pour des raisons de coût d'abord, mais surtout pour montrer que les planches de Jack Kirby, en fait, ont été très vendues. Jack Kirby, à la fin de sa vie, est soutenu par l'ensemble de la profession qui payait sa dette symbolique à ce créateur de tous les codes qui ont été utilisés depuis dans les comics de super-héros, l'ont soutenu pour qu'il puisse récupérer ses planches originales auprès de ses éditeurs, et notamment de la Marvel qui voulait pas les lâcher. Jack Kirby, c'est l'histoire d'un homme qui a été en avance en permanence sur son temps, toujours décalé, mais jamais au bon moment. C'est quelqu'un qui, s'il existait aujourd'hui, serait richissime, toucherait des droits dérivés, non seulement sur les bandes dessinées qu'il produit, mais surtout ses produits dérivés, et notamment le cinéma, qui s'est emparé de tout ce qu'a inventé Jack Kirby pendant 50 ans, sauf qu'il le faisait à une époque où il était un simple ouvrier des studios et des éditeurs qui l'employaient. Il était très mal payé et donc il devait travailler énormément. Et une bonne partie du style Kirby vient de cette nécessité de dessiner vite. Et c'était un homme qui était extrêmement prolixe dans son dessin, à tel point que les encreurs avaient du mal à suivre souvent ce qu'il dessinait extrêmement vite. Et on trouve d'ailleurs, ça fait partie de la légende Kirby, des erreurs d'encreurs, par exemple, qui ont du mal à interpréter le dessin de Kirby, donc qui parfois rattachent un bras à un autre personnage, qui donne deux mains droites dans des scènes de bagarre, comme ça. Et c'est surtout quelqu'un qui va chercher l'efficacité. Et donc, il va pas du tout être dans un dessin académique, extrêmement bien proportionné, avec des perspectives parfaites. Kirby, la perspective, il s'en fiche, l'anatomie encore plus. Donc, il invente ses procédés de grossissement des points, par exemple, qui vous sautent à la figure. Alors, tout le monde l'a imité depuis. Il va inventer la splash page, donc la page entière, parce que c'est plus rapide à dessiner que plusieurs petites cases. Il va inventer des cases où on va avoir surtout une onomatopée. Par exemple, il va y avoir un wow sur une seule case, parce que ça permet aussi d'aller plus vite. Mais alors, ça donne un dynamisme et une énergie extraordinaire à Kirby. Alors, ce qu'on voit dans cette exposition, donc qui est extrêmement riche et qui retrace plus de 50 ans de l'histoire de la bande dessinée, c'est comment est-ce qu'on va passer, c'est l'invention du comic strip. C'est-à-dire, au départ, la bande dessinée, ce sont des strips dans les journaux, et puis une fois par semaine, il y a la grande page, la Sunday page bien ordonnée, et puis Kirby arrive au moment où on va inventer le comics, et il va falloir inventer un langage propre. Donc lui, il dessine très grand sur des cases, pour des fascicules qui vont être réduits au quart, donc il va falloir inventer un ancrage, par exemple, qui supporte la réduction. Donc les fameux noirs de Kirby, les aplats qui sont... qui font sa signature, les aplats noirs. Ça vient simplement du fait que, et d'ailleurs, il y a une planche très étonnante de Hulk dessinée par Kirby et ancrée par son ami Bill Everett. Hein, et Bill Everett va faire des hachures. Et on imagine qu'à la réduction, ça passait pas du tout. Alors que l'aplat noir, bah, ça supporte toutes les réductions. Donc, on a les origines de Kirby, ses grandes influences. C'était un peu comme l'expo Druyer à Pulp. On a des planches grand format. Une magnifique, par exemple, de Harold Foster, de Prince Valiant. Une planche qui date de 1937, je crois, où on voit un petit personnage à un moment, Prince Valiant, se déguise en démon. Et ce démon, ça va être la source, 40 ans plus tard, d'une invention de Kirby, quand il travaille pour DC, de faire le démon. Donc c'est à la fois une exposition généalogique, les origines de Kirby, ses débuts, intervalliste pour les dessins animés Popeye, par exemple, ce qu'on découvre dans cette exposition, pour ceux qui connaissent pas par cœur son Kirby. Et puis toutes les étapes, l'invention de Captain America avec Joe Simon, comment est-ce que plus tard il va passer chez Marvel. Et là, l'intérêt de voir les planches originales est extraordinaire, parce que sur ces planches au format, on voit crayonner des indications en haut, des indications d'intrigue. Et en fait, on comprend très bien, rien qu'en voyant ça, que la légende que s'est construite Stan Lee et qu'on a répété ad nauseam quand il est mort l'an dernier, de celui qui a tout inventé, qui faisait les scénarios extraordinaires, qui servent de base à l'industrie de l'entertainment américain aujourd'hui, en fait, Kirby faisait les scénarios de ces histoires, donc les improviser au fur et à mesure, et Stan Lee passait derrière et il remplissait les bulles. C'était le dialoguiste, Stan Lee. Or, au-delà de la légende qu'il s'est construit. Sauf que l'angoisse de Kirby, c'était que Stan Lee ne comprenne rien à ce qu'il voulait faire. Donc, il donne des indications en disant « Voilà ce qui se passe dedans, ne salope pas mon travail par tes dialogues. » Et ce qu'on voit aussi dedans, parce qu'on est toujours très fatigué dans une exposition de bande dessinée, on n'a pas envie de lire les histoires, on veut voir comment ça tient graphiquement. Donc, on voit cette invention de Kirby qui va de plus en plus vers quelque chose d'abstrait, c'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est juste les postures qui l'intéressent, où il n'y aura plus de décor, parce que ça aussi ça prend du temps à dessiner, où il va faire du collage, par exemple, de manière tout à fait passionnante, et on voit l'évolution d'un style de plus en plus outrancier, de plus en plus baroque, mais qui fait de lui le dieu plus vivant, le dieu mort de tous les grands artistes américains, et on voit les œuvres de certains d'ailleurs qui ont repris ce qu'il a fait. Les artistes ont transcendé l'art de Kirby comme Kirby transcendait la vie.
Visible à Cherbourg au musée Thomas-Henry jusqu'au 1er septembre. Visite obligatoire, bien évidemment, pour tous les amateurs de mauvais genre. Et lecture obligatoire maintenant, un peu d'histoire antique. Monsieur Antoine avec notre ami Frank Miller.
Oui, alors c'est les guerres médiques vues par Frank Miller. 20 ans après 300, qui sont vraiment dernier grand livre, il fait Xerxès. Et alors là, on parlait du Jack Kirby vieillissant. Le Frank Miller vieillissant, c'est aussi très curieux. C'est-à-dire que l'histoire, il n'en a plus rien à faire. Le dessin devient de plus en plus obsessionnel. On a parfois l'impression de voir de l'art brut. Je parlais de l'abstraction de Kirby, mais alors là, ça va très loin avec Frank Miller. Donc, au début, on se coupe en deux dans tous les morceaux, on s'embroche avec des lances, etc. Et puis, ça devient juste une sorte de méditation graphique sans, en perte absolue du récit. Donc, ça a pu désarçonner beaucoup de personnes. Frank Miller n'est plus Frank Miller. Ça, il faut le reconnaître. C'est-à-dire que 20 ans après, la maladie, l'âge, tout ce que vous voulez, son dessin est plus malhabile. Mais il en prend acte et il fait quelque chose, je n'ai jamais vu ça. Enfin, j'ai lu des critiques en disant c'est formidable, quelle narration extraordinaire, etc. Non, c'est juste dingue. C'est un type qui accepte d'être dingue et qui offre ça à ses fans pour donner des nouvelles, juste où il en est dans la dinguerie.
Voilà, une dinguerie qui prend la forme là du conflit entre l'Empire perse et le génie du jeune Alexandre. C'est vrai que la lecture est étonnante, le dessin est pulvérisé et les corps disparaissent sous une pluie d'ornements, de petites briques, de choses. C'est très très singulier. Petite coda merveilleuse et scientifique à notre émission de ce soir avec Christophe Beer.
En 2018, le rétrofiction de Coste et Alterac attire l'attention sur les dessins et récits conjecturaux de Marius Monnier, portés sur d'improbables inventions. Canons d'immeubles propulsant les gens à l'étage désiré, collyres pour voir à travers les corps, costumes électriques pour jour d'illumination, machines arachnides à gravir les montagnes. Ce facétieux illustrateur a aussi publié des romans feuilletons d'anticipation dans des journaux pour la jeunesse, jamais réunis en volume, exemple typique de cette littérature fantôme inaccessible. C'est sans compter sur Jean-Luc Buard, spécialiste de la littérature populaire et créateur avec Jacques Olivo d'une série d'éditions critiques sur des textes oubliés qu'il postface avec érudition. Ils inaugurent une bibliothèque Marius Monnier avec « À 90 000 lieues de la Terre », prépublié en 24 épisodes dans la Jeunesse illustrée de juillet à décembre 1906 et illustré par l'auteur. Tout commence à Orléans par la découverte archéologique d'un énorme obus à hélice d'une densité métallique inconnue et d'origine sélénite, au moyen duquel le docteur Agénor Lancette et ses amis partent pour une exploration lunaire. L'on filait dans le vide. Dans ce vide d'un noir absolu, les étoiles étincelaient par millions. C'était une poussière de soleil, de monde, paraissant avoir été lancée dans l'infini sidéral par quelques mains gigantesques. Munis de scaphandres, évaporant à volonté l'air liquéfié de la campagne orléanaise, les voici affrontant des dangers extravagants, comme le déferlement d'une phalange de myriapodes, scolopendres et orthoptères de la grande espèce, grouillant en rang serré, avec une violence de tempête, fuyant les ténèbres glaciales de l'astre, dans un bruit sourd de carapaces qui se choquaient et un cliquetis infini de pattes, de corselets, d'anneaux, d'antennes et de pinces formidables. En motocyclette, les excursionnistes découvrent, dans la face cachée du globe, les ruines d'une civilisation, palais effondrés aux armatures indestructibles, aériennes architectures légères comme des dentelles, nécropoles aux squelettes de 3 mètres. Une étrange machine à pieds articulés, d'une souplesse admirable, car cette littérature se nourrit d'adjectifs immodestes, reparcourant les étendues lunaires, sauvera de la mort les téméraires explorateurs. En publiant ce récit bourré de références scientifiques didactiques, mais transcendé par l'enthousiasme inventif de l'humoriste Monnier, Jean-Luc Buard fête à sa manière le cinquantenaire du premier pas sur la Lune et nous réenchante par la naïve beauté de cette littérature longtemps invisible.
Merci Christophe Beer. Une petite précision, Antoine.
Oui, préciser simplement qu'il n'y a pas de catalogue pour l'exposition de Cherbourg parce que DC, c'est-à-dire Time Warner, et Marvel, c'est-à-dire Disney, ne lâchent rien et veulent tout contrôler. En revanche, vous pouvez vous procurer chez Urban Books le passionnant Jack Kirby, King of Comics, écrit par son ancien assistant et biographe, Marc Evanier.
Merci Antoine, merci Fleur Hopkins d'avoir été ce soir l'invité de Mauvais Genre. Eh ben, on vous a à l'œil, on surveille maintenant toutes vos productions, vos travaux, vos recherches et vos publications autour du merveilleux scientifique dont je rappelle que la collection Les Orpailleurs, publiée par la BNF, donne eh bien les plus grands classiques et qu'une exposition, donc la vôtre, Fleur Hopkins, lui est consacrée jusqu'au 25 août à la BNF et Stanley Weinbaum, c'est aux éditions L'Arbre Vengeur. Toute l'équipe depuis Frank Miller, c'est chez...
Frank Miller, c'est chez Futuropolis.
Futuropolis, toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Podré, Cédric Chatelus, Siam Boutata, Claire-Martin Dugard, Céline Duchesnay, Jean-Luc Rivera, Antoine Guillot, Christophe Beer et François Joliet vous remercie d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour notre dernière émission DVD de l'année. Il y sera question notamment de Tsui Hark et de Sergio Solima. Et d'ici là, bonne nuit à tous.